VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous. Dans moins de 5 minutes, antenne libre avec Nicolas Pineau pour un spécial sur la Coupe d'Afrique des Nations édition 2015. Retrouvez donc Nicolas au téléphone. Vos avis sont attendus. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. Se présentant comme le leader de Boko Haram a revendiqué l'attaque particulièrement meurtrière perpétrée à Baga dans le nord du Nigeria. L'armée camerounaise de son côté affirme avoir libéré un otage allemand enlevé par le groupe islamiste nigérien Jacques Aristide.
Un communiqué de la présidence camerounaise indique que la libération de Nitsch Robert a été rendue possible grâce à une opération conjointe menée mardi soir par l'armée du Cameroun et ses alliés. L'Allemand avait été kidnappé en juillet l'an dernier par Boko Haram dans l'état nigérian d'Adamawa. Le gouvernement allemand a confirmé l'information, ajoutant que son ressortissant avait été transporté à Yaoundé. Cette libération survient au lendemain d'une vidéo mise en ligne par le groupe terroriste dans laquelle un homme se disant être Aboubakar Shekau a revendiqué l'attaque de Baga. Cette localité dans l'état de Borno, dans le nord du Nigeria, et une quinzaine de villages aux alentours avaient été le théâtre en début d'année d'un raid considéré comme étant le plus meurtrier jamais commis par les islamistes de Boko Haram. Certains responsables locaux avaient fait état de 2000 morts, mais l'armée l'a établi à 150. Dans la vidéo, le présumé chef de Boko Haram affirme que des attaques pires que celles de Baga seront menées, menaçant les pays voisins et leurs dirigeants, Paul Biya du Cameroun, Mahamadou Issoufou du Niger et Idriss Déby du Tchad.
En Guinée, l'auteur présumé d'une attaque à la grenade hier dans un bar de Conakry est détenu à Matam. Selon le porte-parole de la gendarmerie guinéenne, Mamadou Alpha Barry, la gendarmerie fait état d'un mort et de 5 blessés. Les États-Unis se disent profondément préoccupés par la violence en République démocratique du Congo depuis l'adoption par l'Assemblée nationale d'une nouvelle loi électorale actuellement en examen au Sénat. Le porte-parole du département d'État américain, James Saki, a déclaré dans un communiqué que les États-Unis sont troublés par des rapports de violence manifestations de grande ampleur, de pillages, d'arrestations illégales et la violence contre les manifestants. Et sur place, les violences ont continué pour la troisième journée consécutive à Kinshasa et à Goma, dans l'est du pays. Le point, Eddy Issengo.
À Kinshasa, les affrontements ont repris entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les étudiants de l'université de Kinshasa scandaient « Kabila dégage ». La police est intervenue de manière musclée. Dans les quartiers d'Njili, un poste mobile de police a été détruit par des jeunes en colère contre le général Célestin Kanyama, chef de la police. À Goma, grande ville de l'Est, les forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène des étudiants qui avaient dressé une barricade. Selon les autorités, il y a eu 15 morts après 3 jours de violence. Mais la Fédération internationale des droits de l'homme fait état d'au moins 42 victimes. Monseigneur Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, a condamné les projets de révision de la loi électorale susceptibles de permettre au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Il a appelé le gouvernement à cesser de tuer son peuple.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Début ce mercredi à La Havane de 2 jours de pourparlers entre les États-Unis et Cuba dans le cadre des efforts visant à normaliser leurs relations après plus de 50 ans d'hostilité. Le président Obama et son homologue Raúl Castro ont annoncé il y a un mois un rapprochement historique entre les deux pays. En Russie, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov estime que le discours du président Obama hier reflète le désir des États-Unis de dominer les affaires mondiales. L'économie russe est en difficulté à cause des sanctions imposées par Washington et l'Union européenne suite à l'intervention de la Russie en Ukraine. Au Yémen, les affrontements entre les miliciens chiites et soldats du gouvernement ont fait au moins 35 morts et 94 blessés selon l'AFP. Les combattants d'Ansarullah ont renforcé leur contrôle sur la capitale Sanaa un jour après avoir donné l'assaut au palais présidentiel. Le président Abd Rabbo Mansouadi serait en sécurité dans sa résidence encerclée par les rebelles. Hier soir, le chef des rebelles Abdel Malik Al-Houthi a déclaré vouloir mettre fin à la corruption et au totalitarisme au Yémen sans pour autant exiger un changement de gouvernement. Et puis, un Palestinien a blessé au couteau au moins 11 personnes à Tel Aviv, dont plusieurs grièvement. Selon la police israélienne, l'attaque a commencé dans un bus. Le Palestinien de 23 ans qui réside en Cisjordanie a été atteint d'une balle à la jambe avant d'être capturé. Vous écoutez VOA Afrique, place maintenant à l'édition spéciale sport Coupe d'Afrique des Nations.
Bienvenue à la cantine, bienvenue à Mbolo. Olé, 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 olé.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama spéciale Cannes sur VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs dans votre émission, nous allons reparler des matchs, les résultats, les analyses et surtout vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous appeler au 001 202 619 31 40, 001 202 619 31 40 pour nous accompagner ce soir, nos consultants à Libreville, Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Nous accueillons également à Boïcon, c'est au Bénin, Élisée Ongpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas Pénaud.
Et on parle évidemment des matchs du groupe A. Nous sommes mercredi, les matchs du groupe A qui sont dans la compétition. Le Burkina Faso et la Guinée équatoriale qui partagent les points à Bata. Ce résultat n'arrange pas les vice-champions d'Afrique qui se sont inclinés lors du premier match face au Gabon. Dominateurs dans le jeu et dans les occasions, les Burkinabés pêchent dans le dernier geste et n'arrivent pas à concrétiser malgré deux tirs sur les poteaux. Le score final est de 0-0 entre les deux équipes. Le Burkina Faso est dernier actuellement avec un seul point. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne ce soir. Il s'agit de Boniface qui est à Ouagadougou. Bonsoir Boniface.
Ouais, bonsoir.
Alors Boniface, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match décevant, encore une fois, le résultat pour les Burkinabés hein?
Bon, le résultat n'est pas favorable pour les Burkinabés. Mais on espère que le dernier match de Burkina Faso peut toujours se qualifier. Mais la probabilité n'est pas grave. Parce qu'il faut que le Gabon et puis le Congo se tiennent à un match nul pour que le Burkina Faso n'ait pas le Congo et pouvoir se qualifier pour la prochaine fois.
Merci beaucoup Boniface de nous avoir appelé depuis la capitale burkinabé Ouagadougou. On rappelle 0-0 actuellement entre le Gabon et le Congo. Nous allons prendre justement un auditeur en ligne depuis Brazzaville. Il s'agit de Bénin Goma. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Bénin, actuellement 0-0 évidemment entre le Gabon et le Congo. Qu'est-ce que vous attendez des Diables Rouges sur cette rencontre ce soir? Je crois savoir qu'il n'y a pas d'électricité actuellement.
Pour la rencontre de ce soir, vraiment, j'attends pour que le Diable puisse gagner, le Diable Rouge.
Ouais,
on doit gagner au moins 2-0. Et... on peut avoir au moins 4 points.
Et qu'est-ce que vous pensez de Claude Leroy, le sélectionneur?
Claude Leroy, c'est bon, il est bon.
Claude Leroy qui est à sa 8...
on va le garder là.
Oui, Claude Leroy qui était sa 8e Coupe d'Afrique des Nations, on le rappelle, avec les Diables Rouges. Merci beaucoup, Bénin, de nous avoir appelé depuis Brazzaville, évidemment, le 242. On va poser la question à Jules Valentin-Goué. Jules Valentin, décevant pour les vice-champions d'Afrique, évidemment, un nouveau match nul. C'est 0-0 pour le Nzalang National, ça fait 2 points. Mais ça ne fait qu'un tout petit point pour le Burkina qui avait perdu contre le Gabon. Jules Valentin, est-ce qu'il y a danger dans la maison burkinabé?
Oui, bien sûr, il y a danger et le plus pitoyable, c'est que réellement, le danger ne vient pas des adversaires, le danger vient de l'équipe du Burkina elle-même qui est en panne de confiance manifestement et qui, on dirait qu'elle est venue juste pour jouer contre le Gabon où elle a tout donné et sans être récompensée et une fois ce match perdu, et les joueurs ont l'impression de vouloir rentrer à la maison parce que on a vu des Burkinabés très crispés, désorientés et devant une équipe guinéenne prudente et respectueuse et qui ont fait preuve d'assez de nonchalance. Donc je crois que le mal est surtout au niveau de l'équipe. Le Burkina Faso a une panne d'électricité, pour ainsi dire.
Une panne d'électricité. On va poser la question à Élisée. Élisée, évidemment, dommage, mais encore une fois, comme en 2013, on va dire comme en 2012, la Guinée équatoriale qui nous surprend, 2 points déjà dans cette compétition. Et peut-être, évidemment, quelqu'un qui va pouvoir se... on va reprendre Jules Valentin-Goué. Jules Valentin, le Nzalang National qui nous surprend, je le disais, dans cette compétition finalement. Voilà, alors vous êtes toujours à côté de VOA Afrique. Nous allons maintenant parler évidemment de cette compétition, les résultats, les analyses et vos commentaires. Dans quelques secondes, nous revenons ici dans le studio en direct de Washington. Voilà, c'est toujours Sporama Antenne Libre ce mercredi pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations, 30e du nom. On rappelle qu'actuellement les matchs à Bata, le groupe A, tout à l'heure le Burkina Faso a été tenu en échec 0-0 face à la Guinée équatoriale, et actuellement, après 10 minutes de jeu toujours à Bata, le Gabon, les Panthères face au Congo-Brazzaville, et pour le moment 0-0 entre les deux équipes. Alors Jules Valentin, on le disait, le Nzalang National qui, comme en 2012 finalement, nous surprend et pourquoi pas peut rêver d'une qualification pour les quarts de finale.
Oui, bien sûr, le Nzalang qui est très réaliste, et j'ai admiré le fait qu'ils aient accepté et de prendre en compte la supériorité technique de l'équipe adverse et qu'ils aient accepté de jouer le rôle d'outsider. Sachant qu'un nul contre l'équipe la plus douée pratiquement de la poule leur laissait encore des chances. Ils restaient en vie, ils pouvaient voir venir. Ça leur laissait encore des chances pour le dernier match qui serait un derby, dont un match pas comme les autres. Donc, c'est une équipe qui avance à petits pas et qui, ma foi, peut passer et contre toute attente.
Merci beaucoup, Jules Valentin. Alors, Élisée Oumpatine, vous êtes à Boïcon, au Bénin. On le disait tout à l'heure, les Burkinabés sont en danger ce soir.
Bien évidemment, puisque un auditeur l'a déjà dit tout à l'heure, le destin passe par le résultat de ce match qui est en train d'être disputé pour le moment entre le Congo et le Gabon. Là, les Burkinabés peuvent espérer un résultat nul de la part des deux équipes et pourquoi pas gagner leur dernier match contre le Congo et espérer se qualifier. Maintenant, dans l'ensemble, les Burkinabés sont loin de leur jeu et de la dernière phase qui a eu lieu en Afrique du Sud. Dans ce jeu, Jules l'a déjà dit, ils ont joué très juste, surtout en deuxième partie, très lent en attaque, surtout dans les transmissions, surtout les dernières passes avec deux joueurs très décevants cet après-midi, Alain Traoré, bien sûr, du Pitropa, qui ont joué trop juste. Sinon, grâce à ces deux-là, on pouvait assister à l'ouverture du score. Mais voilà, seul Bertrand Traoré s'est donné durant les 90 minutes, c'est vrai, dehors des 30 dernières minutes, et bien, il est fatigué, il n'a plus rien fait. Voilà un résultat qui compromet, bien sûr, la qualification de cette équipe finaliste lors de la dernière édition.
Et en Afrique de l'Ouest, beaucoup parlent encore du match évidemment hier entre le Sili National de Guinée et la Côte d'Ivoire. On le rappelle, un but partout, ça a été chaud pour les Ivoiriens qui ont réussi à égaliser grâce à Seydou Doumbia. Et la nuit dernière, Gervinho qui avait été exclu pendant ce match s'est excusé sur son compte Twitter évidemment en disant que ce geste contre un défenseur guinéen n'avait pas sa place sur un terrain de football. On rappelle que Gervinho risque peut-être un voire deux matchs de suspension. On va parler de ce match Côte d'Ivoire-Guinée avec un auditeur qui nous appelle de Boaké. Il s'agit d'Ibrahima Kondé. Bonsoir Ibrahima.
Bonsoir monsieur.
Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre des éléphants? Est-ce que vous êtes déçu de cette entrée en lice de l'équipe de Yaya Touré?
Bon, sincèrement, cette performance de la Côte d'Ivoire ne m'a pas surpris. Parce que la Côte d'Ivoire, ça vaut des années maintenant. Lorsque la Côte d'Ivoire participe aux éliminatoires, la Côte d'Ivoire se qualifie aisément. Or, cette dernière campagne n'a pas été toute facile pour la Côte d'Ivoire. Non, cela ne m'a pas surpris. Surtout face à une très bonne équipe guinéenne que je suis pratiquement depuis près de 2 ans. Avec des jeunes joueurs comme Ibrahima Traoré et Ibrahima Konté, les Kevin Constant. Là, ne m'a même pas surpris.
Et Ibrahima, est-ce que vous pensez que l'absence de Didier Drogba joue ou pas dans cette élection, dans cette sélection ivoirienne?
Bon, je ne peux pas dire que l'absence de Didier Drogba joue trop, ça ne joue pas trop. Didier Drogba était un attaquant de pointe. Le jeu de la Côte d'Ivoire ne dépendait pas de Didier Drogba à 100%. C'est vrai que je suis un grand buteur. Mais nous, on ne peut pas construire l'avenir avec quelqu'un qui a plus de 36 ans. Il y a Boni Wilfried Kera, il y a Dumia Seydou, il y a Salomon Kalou, on a des buteurs. Simplement, la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la défense. Et puis, bon, souvent aussi, bon, il y a un problème de coaching. Parce que moi, je vois l'entraîneur qui fait jouer des milieux typiquement défensifs auprès de Yaya Touré. Cela fatigue Yaya Touré énormément. À raison de Tioté et puis Sereti.
Eh bien écoutez Ibrahima, merci beaucoup de nous avoir appelé depuis Boaké, c'est en Côte d'Ivoire. On va prendre un autre appel, direction cette fois-ci l'Abbé, la belle ville guinéenne. On retrouve Mohamed Lamine Diallo, bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien?
Très très bien, merci beaucoup. Alors et j'imagine que c'était la joie évidemment avec ce beau résultat finalement pour le Sili National qui aurait même pu espérer gagner ce match.
Ouais, beau résultat, c'est vous qui dites, mais moi je pense que la Guinée pouvait faire mieux dans la mesure où la Côte d'Ivoire était réduite à 10. Donc c'était une opportunité à saisir, malheureusement on ne l'a pas saisi. Du coup moi je reste très pessimiste parce que c'est pas facile. Vu que c'est le Cameroun, on doit choisir lors du prochain match. Et physiquement, soit qu'on aura des problèmes.
Ouais, justement, on le rappelle, évidemment, Michel Dussuyer, le sélectionneur du Sili National, était un peu frustré, vous l'avez dit, du résultat, car ils auraient pu espérer mieux, évidemment, les joueurs du Sili National. Est-ce que vous pensez quand même, c'est un groupe D très difficile, Lamine, est-ce que vous pensez quand même que cette équipe de Guinée va pouvoir aller en quart de finale?
Ouais, je crois que tout est possible. Il faut avoir un esprit, comme on appelle ça, un fighting spirit, comme on le dit souvent.
Oui.
Et je crois que si on garde cet état d'esprit, la même dynamique, un jour nos chances, je crois qu'on pourra passer. C'est pas aussi compliqué que ça.
D'accord, très très bien.
On a prouvé d'ailleurs face à la Côte d'Ivoire hier qu'on pouvait inquiéter les grandes nations. Donc, c'est ça qu'on a, on a nos chances, hein, on a nos chances.
Merci beaucoup Mohamed Lamine Diallo de nous avoir appelé depuis l'Abbé. C'est en Guinée, on reste en Guinée. On va prendre un autre appel, cette fois-ci de la capitale Conakry. On retrouve Oumar Keïta, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir tous les auditeurs de VOA.
Alors Oumar, on parlait hors antenne, vous et moi, vous m'aviez dit que ce match vous a fait plaisir. Hein. Le Sili National, les joueurs ont bien mouillé le maillot hier. Hein.
Franchement, il faut dire, le Sili National a bien mouillé le maillot hier. La performance du Sili National... La qualité du Sili National qu'ils ont montré hier, ça a montré que le Sili National est à la hauteur au commandé cette année. Parce que, comme d'habitude, la Côte d'Ivoire avait l'habitude de nous battre lors de la CAN. Mais cette fois-ci, le Sili National a prouvé tout le monde que le Sili d'hier est différent de Sili d'aujourd'hui. Donc, malgré on n'a pas gagné, malgré on a fait un match nul contre la Côte d'Ivoire, c'est comme le Sili National a gagné quoi. Parce que franchement le match nul d'hier les gens étaient tellement contents d'ici, surtout la capitale ici, c'était un match nul franchement très très enthousiasmé. Tout le monde est content aujourd'hui, tout le monde est content malgré il y a beaucoup de choses à faire. Parce que les deux autres matchs là, il faut noter que ça sera un match très difficile. Parce que les deux équipes là aujourd'hui, ce sont des équipes très fortes, à savoir le Cameroun et le Mali.
Eh bien, merci beaucoup Oumar Keïta de nous avoir appelé depuis Conakry. On va poser la question à nos spécialistes, notamment Élisée Oumpatine. Élisée, on le rappelle, est-ce que c'était une équipe de Côte d'Ivoire très faible ou une très bonne équipe de Guinée finalement?
Finalement, c'est une très bonne équipe guinéenne hein, qu'on a vue, qui n'a pas laissé beaucoup d'espace hein, aux Ivoiriens. C'est vrai que dès l'entame, nous avons vu Gervinho, hein, qui aurait pu être l'homme du match, a créé beaucoup d'énormes difficultés à la défense sur ses gestes malheureux. Ben, il a laissé ses coéquipiers. Et comme à son habitude, hein, Nicolas, il faut dire que la Guinée a toujours perturbé les grands d'Afrique, exemple le Cameroun, le Nigeria. Quand la Guinée affronte ces nations-là, eh bien, il y a toujours du football, et c'est ce qu'on a vu hier, les Guinéens jouer sans complexe, puisque je l'avais déjà dit une fois, l'équipe guinéenne n'avait pas de pression derrière elle, c'est plutôt les Ivoiriens qui avaient la pression. C'est vrai que pour cette édition, les Ivoiriens ne les considéraient pas comme les favoris, mais ils avaient l'obligation de résultat. C'est peut-être ce qui les a mis dans une situation difficile, mais les Guinéens, il faut le dire, il faut le préciser, qu'ils ont très bien joué, surtout avec un sélectionneur qui maîtrise bien le football ivoirien. C'est vrai, il n'a jamais entraîné en Côte d'Ivoire, mais pour avoir participé à déjà trois phases finales d'une Coupe d'Afrique des Nations, il connaît bien sûr le football africain et il a laissé un schéma tactique qui a embêté durant toute la partie les Ivoiriens. Il a fallu l'individualité de Wilfried Bonny et de Doumbia pour que les Ivoiriens échappent de peu une défaite.
Eh bien écoutez, évidemment, Élisée Oumpatine, on va suivre ça. L'autre match peut-être qui est passé un peu plus inaperçu hier, en tout cas pas en Mali mais pas au Cameroun, c'était le match entre les Lions Indomptables et les Aigles du Mali. Là encore, un partout, c'est Yata Barré hein, qui a posé d'énormes problèmes à cette défense camerounaise. Yata Barré qui a marqué une fois, qui aurait pu marquer deux fois, mais son but en toute fin de match a été évidemment considéré comme hors-jeu à juste titre. Et on rappelle évidemment que pour nos amis camerounais, la légalisation a été réussie par Oyongo. Jules Valentin Goué, là encore une fois, on sent que ce niveau de la CAN est très très serré. Beaucoup, beaucoup de matchs nuls, Jules Valentin Goué. Le Cameroun, on va dire, quand même déception hein, de se faire accrocher d'entrée par le Mali. Hein.
Oui, déception si on se réfère peut-être au palmarès du Cameroun. Mais les matchs Cameroun-Mali sont des grands classiques en Afrique. Et au niveau du football, même du style de jeu, c'est deux équipes qui sont très proches, qui jouent très physiquement, très physique, disons. Et au sud du Sahara, il n'y a que les Maliens qui inquiètent les Camerounais dans ce domaine. Donc, vous avez pu le voir en première mi-temps, il y avait beaucoup de fautes, disons que le jeu sur l'homme, il y a même les Camerounais ont fait un changement très précoce sur un joueur qui était blessé. Et donc, tout cela montrait que les équipes étaient encore fraîches physiquement. En deuxième mi-temps, quand la fraîcheur a baissé, on a vu un peu plus de jeu. Mais il faut le dire, c'est le démarrage de la compétition et généralement, les matchs du début sont très équilibrés.
Merci beaucoup, Jules Valentin. On va prendre un appel, justement, de Bamako, Boubacar Dembélé. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Boubacar, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des Aigles du Mali qui ont globalement dominé cette rencontre, hein?
Vraiment, les Aigles du Mali ont fait de son mieux. On ne pensait même pas qu'ils allaient faire un match nul avec la Côte d'Ivoire, quoi. Vraiment, ils ont travaillé. Mais l'entraîneur a fait une petite erreur, quoi. Sinon, il devrait faire jouer Modibo Maïga avant la fin du match, quoi. Mais il a fait Modibo Maïga en retard, quoi.
D'accord, très très bien. Bah, merci beaucoup Boubacar Dembélé de nous avoir appelé depuis Bamako. On va prendre un autre appel, cette fois-ci à N'Djamena Mahamat. Bonsoir Mahamat.
Ah, bonsoir.
Alors Mahamat, vous êtes à N'Djamena, vous êtes tchadien, mais vous supportez les Camerounais. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'hier soir?
Bon, en principe, bon entente, même comme ça a été plutôt un match nul. Et ça ne nous surprend pas d'autant puisque c'est une équipe encore très jeune. Et elle a encore beaucoup à faire, elle est encore inexpérimentée. Mais sauf que déjà, là, ils n'ont pas d'attaque vraiment. Et le milieu, c'est bon, la défense, le gardien aussi, mais l'attaque vraiment, ça ne donne pas. Il va falloir que l'entraîneur travaille encore dessus. Quoi.
Oui, Volker Finke, mais alors Mahamat, la question qu'on a posée.
C'est une équipe prometteuse.
Mahamat, la question qu'on a posée tout à l'heure à un auditeur ivoirien avec l'absence de Didier Drogba, est-ce que selon vous, l'absence de Samuel Eto'o est préjudiciable aux Lions indomptables?
Moi, je peux dire ouais, parce que déjà, là, son absence, bon, ça, il manque vraiment à l'équipe nationale. Il manque vraiment à l'équipe nationale, mais sauf que déjà, là, avec tout ce qu'il y a eu comme problème et tout ça, bon, c'est pas évident qu'il puisse revenir. Surtout qu'il en a pris ça, il a pris, comment je peux dire, sa retraite, non? Il a été en retraite, il ne veut plus jouer avec l'équipe nationale, et je trouve que ça a été même d'ailleurs bien pour lui.
Merci.
Déjà, on a souvent l'habitude de dire que c'est quand on veut s'asseoir qu'on connaît l'importance de faire. Quand il était au terrain, on ne pouvait pas voir vraiment son importance. Maintenant qu'il n'est pas là, sûrement on va se rendre compte que déjà là, il manque beaucoup à l'équipe.
Ah, merci beaucoup, Mahamat. Merci beaucoup, Mahamat. On a beaucoup d'appels, Mahamat. On va prendre en ligne, Mahamat, Bouyagi Sila qui est à Bamako. Bonsoir, Bouyagi.
Oui, bonsoir.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du match des Aigles?
Bon, pour les Aigles. Vraiment, j'ai besoin d'encourager notre joueur. Parce que maintenant, bon, comme Nilsson n'a pas beaucoup de points. Mais toujours, je vais encourager, toujours. Merci beaucoup, c'est mon idée.
Très, très bien. Ben, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je rappelle pour le moment le score entre le Gabon et le Congo, 0-0, 28 minutes de jeu à Bata. Vous êtes toujours sur VOA Afrique. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne me teste pas. Écoute la foule crier qu'on va gagner. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations sur notre antenne. Demain, retour à la compétition des équipes du groupe B, tenue en échec par le Cap-Vert, un partout lors du premier match. La Tunisie doit se ressaisir contre la Zambie. Écoutons Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie.
On veut gagner ce match, mais comme on voudrait faire le premier match aussi. Ce sont des matchs qui dépendent, ils tombent parfois à gauche ou à droite. Parfois la chance, vous avez été quelques occasions. Nous autres, on a un but annulé, un penalty contre nous. Mais ça, c'est la vie, tu l'as accepté. Et maintenant, le Zambie, on sait la force de Zambie. Ils jouent déjà quelques années ensemble. Deuxièmement, ils ont la vitesse. Troisièmement, ils sont très malins.
C'était évidemment Georges Likens, le sélectionneur de la Tunisie. Un match important évidemment, et l'autre match important, Jules Valentin Ngoué, c'est la RDC hein, qui revient face aux Requins Bleus. La RDC qui avait été accrochée un partout hein, dans le duel face aux voisins zambiens.
Oui, ça ça, c'est un match qui vaudra des déplacements. Il ne faut pas oublier que ces derniers temps, là, et notamment les dernières éditions, on a vu le Cap-Vert malmener la RDC. Ça, il s'est encore frais dans les esprits, je crois que c'était en Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que la RDC a une revanche, ne serait-ce que tactique à prendre, et que ce sera un match difficile. Un match difficile quand on sait que les Caverdiens sont aussi très habiles dans les coups de pied arrêtés.
Et on va prendre évidemment un auditeur en ligne qui nous appelle depuis Nouakchott, 150 km de Nouakchott, pour parler du Sénégal. Il s'agit de Bokar Thiam. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Bokar, évidemment, les Sénégalais qui avaient battu le Ghana, les Sénégalais qui joueront, ce sera vendredi à Mongomo contre l'Afrique du Sud. Vous pensez que les Sénégalais vont avoir une deuxième victoire d'affilée?
Oui, bien sûr, parce que bon, ils ont montré un visage très sérieux contre le Ghana, parce qu'ils ont été menés au score à la première mi-temps. Ils ont pu égaliser et remonter au score. Bon, l'entraîneur doit revoir un peu le milieu de terrain. Contre l'Afrique du Sud, vendredi, Inch'Allah, les Lions doivent faire preuve de beaucoup de détermination dans l'animation au milieu du terrain.
Merci beaucoup.
Ils peuvent emporter le match.
Merci beaucoup en tout cas de nous suivre, évidemment, en Mauritanie. Nous allons cette fois-ci aller au Sénégal avec Modou Niang qui est à Louga. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Modou, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des Lions de la Teranga? Modou, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes à Louga au Sénégal. Est-ce que vous nous entendez, Modou? Alors Modou nous fait signe qu'il nous entend. Qu'est-ce que on va peut-être essayer de le rappeler un petit peu plus tard. Elise Ong Patine, justement, ce match des Sénégalais face à l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez que les Sénégalais vont enchaîner sur une deuxième victoire?
Probablement, vu ce qu'on a vu lors de son premier match contre le Ghana, avec cette énorme pression sur l'adversaire, avec surtout les débordements sur les ailes, hein, nous allons voir une équipe sénégalaise qui sera entreprenante face à l'Afrique du Sud, à qui il a manqué beaucoup d'expérience face à l'Algérie. Donc, en tout cas, sur papier, les Sénégalais devraient normalement prendre les 3 points et surtout assurer leur qualification avant d'affronter l'Algérie pour le troisième match. Donc, ils ont intérêt à battre les Sud-Africains qui ne vont pas se laisser aussi facilement, mais le Sénégal d'Alain Chiret doit impérativement prendre les 3 points et éviter de se compromettre une qualification, surtout face à l'Algérie lors de son troisième match.
Évidemment, les Lions de la Teranga, on rappelle, qui affronteront l'Afrique du Sud, ce sera à Mongomo. L'autre match important, ce sera évidemment le Ghana contre l'Algérie. Un autre auditeur nous appelle depuis Dakar, il s'agit de Malik Nias. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Malik, est-ce que vous pensez que la bande, finalement, à Alain Giresse, va pouvoir enchaîner une deuxième victoire contre l'Afrique du Sud, qui a posé beaucoup, beaucoup de problèmes à l'Algérie?
Oui, on sait que l'Algérie est tellement forte, mais l'Afrique du Sud a poussé à renforcer. Et on ne croyait même pas que l'Afrique du Sud va s'en sortir. Mais il a poussé. Et voilà.
Très très bien. Et concernant le Sénégal, évidemment, Malik, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe sénégalaise?
Hein, pour le Sénégal, on est tellement fiers, tellement contents des Lions de la Teranga.
Oui.
Parce qu'ils ont fait un grand match contre le Ghana. Et c'était le Ghana qui était le favori. Et on était sans sortie par 2-1.
Très très bien, merci beaucoup Malik de nous avoir appelé depuis Dakar, c'est au Sénégal. Jules Valentin, très rapidement, pour l'Algérie, vous pensez que les Algériens vont pouvoir doubler la mise?
Oui, mais il faudra tenir compte d'un invité, peut-être un invité qu'on oublie de plus en plus, c'est la chaleur.
La chaleur,
le climat.
Oui,
les joueurs algériens jouent pratiquement en hiver là maintenant en Europe. Et les équipes qui ont beaucoup de joueurs en Afrique, je crois, risquent d'être avantagées à partir de la deuxième journée.
Merci beaucoup, Jules Valentin. On rappelle que vous écoutez VOA Afrique, antenne libre, pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. On vous donne également rendez-vous sur notre page Facebook pour parler évidemment de tous ces matchs, les refaire, les polémiques, mais surtout les analyses avec vous. On vous attend évidemment tous les soirs, 19h, temps universel, ici sur VOA Afrique, pour refaire le débat. Voilà, on va saluer Jules. Voilà, on va saluer Jules Valentin Ngoué à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas et à demain.
Un grand merci également à Élisée Oumpatine. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas et à demain.
On va remercier également Joselle Morissin et Georges Léonard Sagnot. À très vite sur VOA Afrique.